Philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard, le 14 février 1991.
L'intellect possible, qu'est-ce pour le philosophe? Pourquoi est-il découvert en premier? Quel rapport a-t-il avec le corps? Bon. Nous étions arrivés, si vous vous souvenez bien, c'est la question qui se pose tout de suite. Après avoir montré la nécessité d'une troisième opération, qui est en réalité la première, mais première dans le sens d'un élément. Vous voyez, comme vous découvrez dans les corps complexes un élément, sans que c'est le fruit d'une analyse. C'est pas le fruit d'une induction. C'est le fruit d'une analyse. Je ne peux pas m'arrêter au jugement. C'est très très important au plan critique, ça. Bon, ici je vais vite puisque je suis en philosophie du vivant, mais c'est une question capitale en critique. Quand vous regardez un moderne, regardez si il a saisi ce qu'est la différence entre l'appréhension et le jugement. C'est, je crois, la question primordiale qu'on doit faire aux critiques aujourd'hui. Parce que tout le néoplatonisme ne fait pas la distinction. Alors, vous voyez là la marque du néoplatonisme. C'est le propre à l'aristotélisme. Donc c'est intéressant de voir ce qui permet de détecter tout de suite si on a affaire à un réaliste, manière aristotélicienne, ou un réalisme, manière néoplatonicienne. Puisque les néoplatoniciens se prétendent réalistes. À leur manière, il y a des sauces piquantes différentes. Alors, il y a deux manières d'être réaliste. À la manière néoplatonicienne, et à la manière aristotélicienne. Un jour, il faudra préciser ça en critique. Parce que c'est très intéressant. Donc, cette troisième opération, qui en réalité est la première, j'aimerais presque mieux la mettre en troisième lieu, vous voyez. Jugement, raisonnement, et puis la nécessité de poser l'appréhension. C'est là où on saisit le premier moment de la vie intellectuelle, qui est un acte d'assimilation. Comme toujours, le premier moment de la vie est toujours l'assimilation. Et ça, la biologie moderne ne dit rien contre, au contraire, le confirme. Je l'ai demandé à un professeur de biologie de Paris, si on pouvait l'affirmer au niveau purement biologique. C'était toujours intéressant de voir ce que la biologie peut dire. Mais dit, c'est très vrai. C'est l'assimilation qui caractérise le vivant. Et alors on voit des points de vue, vous savez, pour les cristaux, des points de vue analogues à l'assimilation, qui ne sont pas l'assimilation. C'est très intéressant à étudier la différence entre la manière dont le cristal peut grandir, mais il ne grandit pas par assimilation. Ce n'est pas une véritable assimilation. C'est une injonction très particulière. L'assimilation est propre au vivant. Alors l'assimilation, qu'est-ce que ça veut dire? La première opération de toute vie, nous l'avions vu à propos de la nutrition. Parce que c'est le premier acte de la vie végétative, la nutrition et la respiration, qui est une nutrition. En respirant, on assimile. On assimile l'oxygène. On assimile ce qui est absolument nécessaire à la vie. Quand il n'y a plus d'oxygène, vous mourrez. Manière très élégante de mourir. Vous n'avez plus de quoi respirer. Alors, l'assimilation de la vie végétative, l'assimilation analogiquement les mêmes, mais totalement différentes quant à leur manière d'exister. La simulation de la vie végétative implique qu'on détruit ce qu'on assimile. Et on le détruit de façon telle que, justement, il disparaît dans le vivant. Et le vivant se l'assimile. Le petit morceau de pain du matin, le café noir du matin, ou le lait. Ça dépend des spiritualités. Mais c'est... Oui, parce qu'il y a deux spiritualités, le blanc et le noir. Qui sont très nettes. Puis là, la situation intermédiaire, je ne veux pas dire qu'elle est tienne. Il n'est ni blanc ni noir. Alors, on détruit l'aliment pour se l'assimiler. L'assimilation substantielle. Quand il s'agit de l'assimilation intellectuelle et entre deux, la connaissance sensible, c'est une assimilation intentionnelle qui fait qu'on ne détruit pas l'objet, la réalité qu'on connaît. Et on est capable de recevoir d'elle une influence. Une influence telle que on est transformé dans sa détermination. Et cette détermination se fait par une forme intentionnelle. Ça, on peut le montrer. Pas parce que vous regardez la rouge, c'est pas parce que vous regardez une fleur écarlate, une rose écarlate, qu'elle rougit. Elle n'est pas modifiée. Même si vous êtes 1000 spectateurs à la regarder. Tandis que si on est 1000 à manger le même morceau de pain, ça ne va pas très bien. Donc, l'assimilation intentionnelle ne modifie pas la réalité qui est atteinte. Mais elle modifie celui qui connaît. Je suis modifié dans mes sensations. Je suis modifié dans ma vie intellectuelle. Je suis transformé par la réalité que je connais, par sa forme intentionnelle. Alors, tout le gros problème, c'est d'essayer de comprendre comment se fait cette assimilation. Le pourquoi de cette assimilation, c'est pour connaître. La connaissance s'explique, se justifie par elle-même. J'ai plaisir de connaître. Et la connaissance n'a pas besoin de chercher un autre but que la connaissance. Car c'est très très curieux. C'est une assimilation intentionnelle, je connais pour le plaisir de connaître. Et en connaissant, je m'en oublie. Puisque j'acquiers d'autres formes. Intentionnellement, j'acquiers d'autres formes. C'est pour ça que d'une certaine manière, grâce à mon intelligence, je peux tout connaître. J'ai une ouverture à l'infini par la connaissance intellectuelle, pas par ma connaissance sensible. Donc là, je suis en face d'une intentionnalité sans limite. C'est la première chose que je constate. Et c'est très important. Et ceci me fait comprendre ce que c'est que l'universel. Parce que quand j'assimile intellectuellement, j'assimile toujours avec un mode universel, donc qui n'a pas de limite. L'universel est le signe que mon intelligence a quelque chose d'infini et qu'elle porte en elle une exigence infinie. Parce que l'universel est ouvert à tout, au-dessus du temps et du lieu, du conditionnement du temps et du lieu. Donc cette assimilation à quelque chose de tout à fait nouveau. Elle est au-dessus. Elle dépasse le conditionnement du temps et des lieux. Et c'est pour ça que je dirais que cette assimilation a un mode abstrait privilège terrible de répéter. C'est un reflet. Son fruit, c'est une icône qui reflète la réalité. L'image, l'icône. Elle reflète, elle représente. Tandis qu'au contraire, l'intelligence, elle pénètre le secret de la réalité, sa signification. Vous voyez, il y a deux procédés totalement différents qu'il faut bien saisir, puisque Aristote souligne que beaucoup de philosophes ne font pas la distinction entre l'imagination et l'intelligence. Et donc, on doit être très attentif à ce qui caractérise l'imagination et de ce qui caractérise l'intelligence. Un petit travail qui est intéressant à faire, c'est l'imagination. Qu'est-ce que c'est que l'imagination ? C'est très intéressant à faire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de traités de l'imagination chez les philosophes. Et on devrait pouvoir faire un traité de l'imagination. Et voir le passage entre la représentation et la signification. Ça, c'est capital de comprendre ça. La représentation demeure toujours dans une note singulière et particulière. La signification peut connaître un mode universel. C'est le propre de la signification. Elle peut connaître un mode universel. Et dans ce premier moment de ma vie intellectuelle, je vois qu'en effet, la signification apparaît comme ayant quelque chose d'universel, au-delà des limites de temps et de lieu. Tout c'est très spécial. Je constate ça. Et je vois que là, je suis en face d'une assimilation parfaite. Il y a identité. C'est exactement similitude. Au point de vue forme entre la réalité connue et celui qui la connaît dans sa connaissance. Évidemment, c'est une assimilation au niveau intentionnalité, pas au niveau réel existant. Comment expliquer le passage de la représentation de l'image et de la forme intentionnelle? C'est le premier problème. Parce que cette assimilation est le fruit de ma vie intellectuelle. Cette vie intellectuelle, je la possède au-dedans de moi-même, puisque son fruit, cet acte d'appréhension, est une assimilation, et donc je demeure au-dedans de moi. Cet acte demeure au-dedans de moi-même. Et le fruit de cette assimilation, c'est le concept, cette forme intentionnelle. Là, j'infère tout de suite, ou je pose tout de suite, l'intellect possible. Donc, l'intellect possible est posé en premier lieu pour expliquer cette assimilation intentionnelle. Cette assimilation, elle représente une opération propre à l'homme intelligent. Assimile. Et il assimile pour lui, comme toujours, on assimile pour soi. Donc, c'est son intellect possible qui est source propre de cette assimilation. C'est ce qui est posé en premier lieu. Et le fait qu'il y ait assimilation exige c'est le langage du... c'est le langage du théologien. Du point de vue philosophique, il faut parler du concept ou de la forme intentionnelle. Mais faites l'analyse de cette assimilation intentionnelle. J'ai découvert cette opération propre qu'à l'appréhension, qui est une opération première et qui porte en soi son fruit. Et ce fruit, il sait de connaître intellectuellement telle qualité, telle quantité. C'est-à-dire telle forme, telle détermination, telle qualité. Je connais ça, je l'assimile. Dans ça, je constate et j'en ai l'expérience. Si vous faites bien attention à votre connaissance intellectuelle quand vous dites « je pense », vous pensez à quelqu'un, vous assimilez quelque chose au plus intime de vous-même, et vous êtes capable de dire la parole va exprimer. La parole exprime cette forme intentionnelle que je porte en moi, le concept. Et le concept possède une signification propre. Cette signification s'exprime par la parole. Ce n'est pas la parole qui est source de la signification, c'est le concept. Cette forme intentionnelle que je porte au-dedans de moi-même et qui me permet de comprendre cette assimilation. Puisque toute assimilation fait qu'elle est déterminée au point de départ et au terme, autrement ce n'est plus une assimilation. Et que c'est la même forme qui est au point de départ, qui spécifie, qui termine, mais dans deux états différents, au point de départ de l'opération et au terme de l'opération. Cette forme intentionnelle qui porte une signification en elle renvoie à une réalité expérimentée. Mais cette réalité est d'abord portée dans une image. L'image représente. Elle représente la réalité. Toute la difficulté, c'est d'expliquer ce passage entre l'image et la forme intentionnelle. Voilà. Tout le problème est là. Il y a une discontinuité que je constate et que je peux très bien constater. La discontinuité, c'est entre la représentation et la signification. Là, il y a une discontinuité. L'image représente de manière tout à fait particulière la forme intentionnelle assimilée, le concept à une signification. La signification de la quantité de la réalité exprimée. Puisque je représente cette réalité expérimentée dans l'image et je la signifie dans le parlement concept et je la dis dans ma parole. C'est pour ça, qu'est-ce qui détermine et qu'est-ce qui spécifie cette assimilation intentionnelle? C'est immédiatement la forme et c'est radicalement la réalité. Première analyse que je fais de cette assimilation intentionnelle, c'est de poser en moi une capacité de connaître, une puissance de connaissance qu'on appelle l'intelligence. tout ça, c'est toujours à partir de cette expérience de l'appréhension comme assimilation intentionnelle. Et tout ça se tient. Le point très délicat, c'est d'expliquer le passage entre l'image qui représente et la forme intentionnelle qui porte une signification. Le passage du visible à l'invisible. On retrouve ça. L'image, c'est la représentation. C'est du visible. En sens que c'est du sensible. C'est du sensible. Tandis qu'au contraire, la signification du concept, c'est l'invisible. On passe du domaine sensible au domaine intelligible. Comment expliquer ce passage? Je suis en philosophie. Je dois donc essayer d'expliquer. Je vois que l'intelligence, comme tout vivant, se meut. Ce passage se fait quand je suis un peu attentif et que je veux connaître la réalité. Je veux connaître telle réalité. Je veux la saisir dans ce qu'elle a de plus intime. Donc je m'applique. Et je veux connaître. On est intelligent dans la mesure où on veut être intelligent. C'est ça qui est très important ici. Ça, je vous montre. Si vous n'appuyez pas sur la pédale, ça n'arrivera jamais. Hein. Vous resterez bête toute votre vie. C'est-à-dire, vous resterez dans l'image. Pas bête, dans l'image. Parce qu'on peut être très intelligent tout en restant dans l'image. Non, on ne peut pas être très intelligent. On est très imaginatif. On peut avoir une intelligence imaginative qui est enfoncée dans les nuages. Je reste dans les nuages. J'aime d'être planeur. Toute ma vie, j'ai comme vocation d'être planeur. Et j'aime mieux rester là, parce que là, au moins, personne ne me dérange. Je plane. Je dis bonjour en passant à droite et à gauche. Personne ne m'atteint, parce que je plane. C'est tout à fait individuel, c'est tout à fait proche à moi. Tandis que si j'entre dans le domaine de l'intelligence, ah, je deviens universel, donc catholique, c'est gênant. C'est très très gênant. Là, je reste, je plane. Je plane admirablement. Il faut vouloir connaître intellectuellement pour pouvoir devenir intelligent. Il faut s'appliquer. Il faut creuser. Donc, l'intelligence, puisque elle est vitale, elle possède donc en elle-même ce pouvoir d'éclairer l'image pour que je passe du domaine sensible au domaine intelligible. Et c'est là où je pose l'intellect agent pour bien comprendre le c'est mauvais ré de la vie intellectuelle. C'est donc du côté de la causalité efficiente. Pour expliquer ce c'est mauvais, ce passage de l'image qui représente à la forme intentionnelle qui signifie. Alors comme toujours, le c'est mauvais ré, le mouvement, la cause efficiente, n'est jamais connue par elle-même. Elle est toujours connue par la médiation de la forme. Mais une forme qui prend deux états différents. C'est le propre de la causalité efficiente. Votre causalité efficiente, quand vous écrivez sur un bout de papier, c'est une cause efficiente. Vous ne la saisissez pas. Vous la saisissez par les faits. Ah, tiens. tiens, oui, j'ai bien décrit quelque chose. Si entre deux, vous êtes endormi, vous vous rappelez au moment où vous avez commencé à vous endormir. Tiens, le dernier mot que j'ai mis, c'est ça. Votre causalité visuelle s'est arrêtée là. Oui, c'est la forme qui détermine ça. Et puis, vous avez aussi la volonté d'écrire. Donc, il y a une finalité. Toute causalité efficiente est enveloppée, déterminée par la forme. Causalité formelle et par la fin est entre les deux. C'est toujours un métaxu. Toute causalité efficiente, toujours intermédiaire. Alors ici, comprenons bien, quel est le point de départ formel? Mais c'est l'image et la forme intentionnelle. Quelle est la finalité? Aboutir à la simulation intentionnelle. À partir de là, je peux dire ce que doit être cette causalité efficiente. Cette causalité efficiente doit être une efficience pure, sans aucune détermination. Autrement, je tomberai dans la subjectivité transcendantale de Kant. Je veux éviter la subjectivité transcendantale de Kant. Kant a oublié l'intellect agent et a mis la subjectivité transcendantale à la place. Donc il a fait un blocage entre l'efficience et la cause formelle. Il n'a pas su distinguer ça. Sa philosophie ne lui permettait pas de distinguer causalité efficiente et causalité formelle. Notre philosophie réaliste permet de distinguer la cause efficiente de la causalité formelle. Si je peux distinguer causalité efficiente et causalité formelle, je comprends que le vivant, c'est avant tout celui qui se meut. Causalité efficiente. Causalité efficiente dans le domaine de l'intelligence. Dans le domaine spirituel. Cette causalité efficiente dans le domaine spirituel ne peut être que ce qui éclaire, ce qui illumine de l'intérieur et qui permet de faire que de l'image qui implique cette détermination dans tel individu, je saisisse uniquement la détermination quantitative, essentielle, et je laisse tomber le reste. Cette causalité efficiente sera donc comme une lumière qui, de l'intérieur, s'empare de l'image pour faire cette purification de l'image, pour faire sortir de l'image ce qu'elle contient, sa détermination propre, sa détermination quantitative, en laissant tomber toutes les notes particulières, puisque toutes les notes particulières ne peuvent pas déterminer l'intellect possible. L'intellect agent sera donc cette source intérieure, à l'intérieur de la vie intellectuelle, qui permet ce passage de la représentation à la forme intentionnelle, qui porte en elle-même la signification. Voyez donc comment je pose l'intellect possible en fonction de comment je pose l'intellect agent en fonction de l'intellect possible et non pas l'inverse. Il y a trois choses qui me permettent de préciser ce qu'est cet intellect possible dont je n'ai pas d'expérience à l'état pur. Ne cherchez pas à voir l'intellect possible. Vous ne le verrez jamais. Même si vous faites une obscurité complète. C'est une lumière très spéciale. Il y a trois points absolument nets. Il y a l'image, la forme intentionnelle qui spécifie, et puis l'intellect possible, capable de recevoir cette forme intentionnelle. Donc, un, deux, trois. C'est à partir de ces trois données que je pose monde sensible. La lumière n'est pas une couleur, donc elle n'a pas de détermination. Donc elle est pure causalité efficiente qui actue le diaphane. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est comme une lumière que je porte en moi et qui est capable de transformer les images en forme intentionnelle, avec un respect complet de la détermination de l'image, détermination quantitative. L'image porte en elle des quantités de détermination. Je suis capable de vouloir m'orienter vers telle détermination. Je veux faire de la philosophie, je veux faire des mathématiques, je veux, eh bien, en disant ça, j'oriente cette puissance intellectuelle, exactement comme celui qui veut projeter quelque chose, il oriente. J'oriente l'intellect agent de telle manière. Vous allez me dire, ça c'est la pure invention. Non. Il y a un fait existant, c'est celui-là. Il faut expliquer ces trois moments et le lien entre ces trois moments. Qu'est-ce qui fait ce lien entre ces trois moments? Quelque chose qui est intérieur, saute en moi. L'image, c'est mon image. Ma pensée, c'est ma pensée. Je vois le passage des deux. Donc il y a quelque chose qui est commun entre les deux. C'est mon intelligence. Active, pas passive. L'intellect agent est au service de l'intellect possible. C'est l'intellect possible qui me permet d'atteindre ma finalité. C'est pas l'intellect agent. C'est l'intellect possible. L'intellect agent a ce privilège unique d'être comme acte pur dans l'ordre de l'intelligibilité. Puisqu'il n'a aucune détermination propre. C'est l'acte. Oui, alors, c'est ça qui est très très curieux. Si, vous savez, il faut inventer cette chose-là. Intellect possible. Donc, tabula rasa. Ça, il faut le connaître. Tabula rasa. Pour moi, savoir ça, en latin. Et lui aussi, sans forme. dire que la pensée, elle ne vient pas de moi. Je la reçois d'une substance pensante supérieure à moi qui me donne la manne. C'est comme l'artiste dit qu'il est inspiré par les muses. Si les muses font grève, l'artiste dit de rien. Les muses sont en grève. Elles chôment. Non, je ne dis rien. Et un artiste dira, je suis pas en état de grâce, je ne peux rien faire. Il y avait un père comme ça qui disait qu'il pouvait faire ses courbes quand il était sous l'inspiration des muses. Alors on a annoncé pas de cours aujourd'hui. Les muses font grève. Elles chôment. Un artiste voudra faire quelque chose que quand il est en état de grâce, sous l'influence. Oui, alors on projette sur ma vie intellectuelle ce qui est vrai d'une certaine manière pour la vie artistique, où on expliquera tout par la subjectivité transcendantale. Ce sera Kant. Alors Kant, tout simplement, unit cette causalité efficiente à des formes a priori. se retrouver.